par les courses. Première course à Deauville. Premier le 5, 21,60€, 3,10€. Deuxième le 6, 2,20€. Troisième le 4, 1,10€. Deuxième course en non partant le 13. Combinaison gagnante du Quintet Plus. Premier le 16. Deuxième l'As. Troisième le 11. Quatrième le 3 et cinquième le 8. Il est 14h03 sur France Inter. L'heure de retrouver 2000 ans d'histoire avec vous, Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Agnès et bonjour à tous. Aujourd'hui, les diamants, les émeraudes, les rubis et les saphirs. Une histoire des pierres précieuses. En cette île naissent les nobles rubis, les saphirs et encore maintes autres bonnes pierres. Le roi de Ceylan considérait ces joyaux comme une très grande illustration de sa seigneurie. Marco Polo. D'histoire. Venues du fond de la terre et de la nuit des temps, parce qu'elles sont rares, parce qu'elles sont chères et surtout parce qu'elles sont belles, les pierres précieuses ont toujours fasciné les hommes. Des plus grands souverains du monde jusqu'aux plus pauvres de leurs sujets, tous ont un jour rêvé de porter sur leurs doigts, leurs poignets, leurs coups ou leurs couronnes une émeraude de Colombie, un saphir du Cachemire, un rubis sang de pigeon de Birmanie, ou encore les plus vieilles et les plus chères des pierres précieuses, les diamants dont on dit qu'ils sont éternels comme l'amour, sauf bien entendu pour une célèbre croqueuse de mari et de diamants, et qui ne gardait pas plus longtemps les uns que les autres. France Inter, Patrice Bertin, le 1er mars 1978.
Pour finir, la triste histoire d'un diamant solitaire dont personne ne veut, c'est le diamant de Listeller, une énorme pierre de 70 carats que Richard Burton avait acheté chez Cartier en 1969 pour la bagatelle de 5 millions. Peut-être est-il trop lourd, en tout cas Miss Taylor, grande croqueuse de diamants et de mari, veut s'en débarrasser comme elle s'est débarrassée de Burton. Listeller en demande 20 millions, 2 milliards anciens, 4 fois plus que son prix d'achat. Ce diamant, il y a quelqu'un qui le connaît très bien, c'est Monsieur Alexandre, le coiffeur de Liz Taylor.
Elizabeth Taylor est amoureuse des pierres précieuses. Et je crois que ce diamant, ce qu'il faut y voir surtout, c'est un symbole d'amour. Parce qu'il a été acheté à l'époque où le mariage était heureux. Et c'est un présent que Richard Burton avait fait à sa femme.
A kiss on the hand, maybe quite continental. But diamonds are a girl's best friend. Kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
Patrick Boileau, bonjour.
Bonjour.
Alors les diamants ne sont pas seulement les meilleurs amis des femmes, comme le chante Marilyn Monroe. Vous aussi, vous aimez les diamants et les pierres précieuses. On les trouve dans tous vos livres, dont le dernier, Pierres précieuses et terres d'aventure, un livre qui a été publié chez Hermé. Qu'est-ce qui fait, Patrick Boileau, à vos yeux, qu'une pierre est précieuse? Est-ce que c'est seulement son prix, sa valeur marchande?
Non, certainement pas. Aujourd'hui, la législation a d'abord déterminé les pierres précieuses, les quatre grandes pierres précieuses, c'est-à-dire saphir, diamant, rubis, émeraude. Mais aujourd'hui, depuis 2 ans, toutes les pierres sont précieuses. On dit qu'il y a des pierres gemmes, c'est-à-dire sont des pierres transparentes, très belles. Et ce qui permet de déterminer qu'une pierre est précieuse, si vous voulez, c'est à la fois sa rareté, c'est-à-dire la difficulté qu'on va avoir pour la trouver sur cette terre. Et puis c'est aussi des critères de dureté, si vous voulez. On va pouvoir la porter en bijoux, elle ne va pas s'user. Et des critères de couleur, un certain nombre de critères qui vont faire que c'est un objet exceptionnel.
Il y a aussi, évidemment, en plus on est dans une émission d'histoire, il y a leur histoire qui est aussi vieille que la terre. Vous le rappelez, vous dites par exemple que le plus gros diamant de l'histoire, le Cullinan, qui se trouve sur la couronne d'Angleterre, parce qu'il a été coupé en morceaux, enfin c'est un gros morceau qu'on trouve sur la couronne d'Angleterre, il s'est formé, dites-vous, il y a plus de 1 milliard 700 millions d'années, au fond, bien avant l'apparition de l'homme. Comment se forme d'ailleurs, s'est formé dans ce très lointain passé, une pierre précieuse?
Alors là, vous parlez du diamant. Effectivement, le diamant, c'est certainement la plus ancienne des pierres précieuses qui s'est formée. C'est de l'ordre du milliard d'années. Elle se forme, tout commence au centre de la Terre, avec des matières en fusion. Le diamant, c'est du carbone pur. Alors, imaginez des atomes de carbone qui se promènent, des petites molécules qui se promènent et qui vont s'attirer les unes aux autres, et puis ça va remonter progressivement, si vous voulez, et très très lentement, ça va remonter dans ce qu'on appelle des pipes, c'est-à-dire des laves volcaniques qui vont se solidifier, qui vont remonter très lentement vers la surface de la Terre. Voilà, et ça met des millions d'années. Et alors, ce qu'il faut pour former une pierre grosse, parce que souvent on trouve de tout petits diamants, pour ce gros diamant qui fait 3106 carats, c'est-à-dire 3106 carats, c'est de la grosseur d'une grosse pomme de terre, si vous voulez.
Le carat, à propos parenthèse.
0,2 grammes.
Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas 0,2 grammes plutôt qu'un carat?
Parce que c'est une vieille histoire très ancienne. À l'origine, on pesait les pierres avec les graines de caroubier.
Ah, d'accord.
Et les graines de caroubier avaient un poids à peu près constant, qui n'était pas très loin de 0,2 grammes. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, quand on retrouve des textes anciens, le nombre de carats des pierres de l'époque ne correspond pas exactement à celui qu'on a actuellement.
Alors, il y a aussi les symboles qu'on leur prête, bien entendu. Par exemple, l'émeraude, parce qu'elle est verte, évidemment, symbolise l'espérance. Le rubis rouge. Dites-vous aussi, il apportait, au fond, il protégeait. Il avait une vertu de protection, si bien d'ailleurs que Charles le Téméraire portait un chapelet, je crois, de rubis sur son chapeau, et que le jour où il l'a perdu dans une bataille, en 1476, il est mort un an après dans une autre bataille, ce qui prouve que c'était important à ses yeux. D'ailleurs, ce qui prouve aussi une chose, Patrick Voileau, c'est que les femmes ne sont pas seules à s'intéresser et à porter des pierres précieuses.
Non, les pierres précieuses, c'était avant tout portées par des hommes. Les grosses pierres étaient portées par des hommes parce que c'était des objets de pouvoir. Vous me parliez du rubis, là. Le rubis, vous voyez très peu de couronnes du Moyen-Âge, par exemple, sans un rubis central. Je pense, par exemple, au plus beau rubis qui existe, qui fait à peu près 300 carats, qui est sur la couronne de Saint-Vacéslas, à Prague, qui représente le sang du Christ, si vous voulez, et qui est très rouge, et derrière, d'ailleurs, il y a une épine de la couronne du Christ. Et ça représentait le pouvoir. C'est-à-dire avoir des pierres rares, parce qu'elles étaient encore plus rares avant qu'aujourd'hui, c'était très difficile d'aller chercher, il fallait faire des routes dangereuses, les ramener, on ne sait pas d'où elles venaient. Ça représentait le pouvoir.
Alors cela dit, la vertu la plus connue des pierres précieuses, c'est aussi bien sûr leur valeur qui avait permis naguère à Mazarin de survivre pendant la Fronde grâce à sa célèbre collection de pierres précieuses.
J'ai connu le temps où ces étoiles se mettaient en poche quand on devait prendre la poudre d'escampette. Ceux-là seront à la couronne. On les appellera les Mazarins.
Et le grand Sancy, monseigneur.
Ah. Pour la reine. On dit que Charles le Téméraire a possédé ce diamant.
Et le miroir du Portugal, monseigneur, pour qui?
Pour la reine. Inscrivez-le.
Et sa beauté délicieuse. C'est une chanson d'Orland de Lassus à l'époque de Mazarin, qui avait donc une des plus belles collections, je crois, de diamants. Patrick Voileau, le Grand Sancy, par exemple, c'est un des plus beaux diamants du monde. Il y en a quelques-uns dans votre livre aussi.
Oui, il y a quelques diamants. Ouais, on parlait tout à l'heure du Cullinan, qui est le plus gros diamant du monde. Il y a le Koh-i-Noor aussi, qui est sur la couronne d'Angleterre, qui a toute une histoire absolument incroyable. Le Nadir Shah était le récupérer auprès du... a monté une guerre complète contre le Grand Mogol pour récupérer ce diamant dans un turban, et c'est là d'où vient son nom d'ailleurs. Lorsqu'il est tombé du turban, il s'est exclamé aux montagnes de lumière, qui veut dire Koh-i-Noor. Il y a aussi des diamants très célèbres, des diamants de couleur, comme le diamant de Louis XIV, qui est le Hope maintenant, qui se trouve aux États-Unis, qui est un diamant bleu.
Il y a plusieurs diamants bleus, hein, faut le rappeler. On se souvient que dans un film célèbre et récent à propos d'un accident, d'un drame même très ancien, qui était le naufrage du Titanic, il y avait un diamant bleu aussi qui avait coulé avec le Titanic.
Oui, je pense pas qu'on l'ait retrouvé, celui-là.
Non, bah non, mais
je sais même pas.
Quand on dit le diamant bleu, il y en a plusieurs, en fait, c'est ça que je voulais dire.
Oui, non, mais il est vrai que dans les diamants, il y a différentes couleurs, et les diamants bleus, notamment, sont pas très connus, mais sont des diamants très rares, on en trouve relativement peu, les diamants roses aussi, les diamants verts aussi, il y a par exemple un diamant vert très connu à Dresde, le vert de Dresde, qui est une pierre très célèbre. Il y a des diamants roses comme le Condé qui se trouve à Chantilly, qui est une pierre aussi en forme de poire qui est célèbre. Il y a énormément de diamants, de gros diamants célèbres. On en trouvait beaucoup de ces diamants venaient d'Inde à l'époque de Golconde.
Oui, c'était Golconde, c'était un royaume mythique assez extraordinaire. Enfin, il y a plus tellement, d'ailleurs c'est surtout maintenant en Afrique du Sud que l'on trouve, qu'on exploite les diamants.
On n'en trouve pratiquement plus, enfin très peu en Inde. On en trouve en Afrique du Sud, mais maintenant il y a beaucoup de pays producteurs comme le Canada, comme la Russie. On trouve beaucoup de diamants de couleur aussi en Australie. Beaucoup de diamants roses viennent d'Australie. Il en vient de Bornéo, il en vient du Brésil.
Et ce que j'étais étonné aussi de savoir que pour la plupart, pour l'essentiel, une majeure partie en tout cas de la production de diamants, ils ne sont pas destinés à la parure, mais à l'industrie en fait.
C'est-à-dire que, en réalité, on regarde sur une mine, si vous voulez, le pourcentage de diamants joaillerie qu'on va pouvoir utiliser dans la joaillerie. Et généralement, le pourcentage est en dessous de 10%. Mmh. Il y a certains pays, comme par exemple la Guinée-Conakry, qui va produire 30 ou 40% de diamants joaillerie, c'est-à-dire diamants qu'on va pouvoir tailler et en faire pour faire des bijoux. Le reste des diamants servent à faire des abrasifs, parce que c'est la pierre la plus dure qui existe.
Alors, ce qui a longtemps fait la valeur d'un diamant, bien sûr, c'était sa transparence, alors que les autres pierres précieuses sont au contraire appréciées pour leur couleur bleue, rouge ou verte, comme celle de ce reportage de Christine Goémé en 1994 chez Cartier.
Vous avez là, en phase de sertissage, un bracelet avec des pierres de couleur. Vous avez là encore, vous avez encore des éléments qui sont démontables.
Et alors ces pierres, c'est...
Ça, ce sont
saphirs. C'est des saphirs. Ah, et ça va donner ça, alors.
Voilà. Là, vous avez le dessin. Oh,
mais il y a des rubis aussi, pas seulement des saphirs, alors.
Oui,
vous allez
ça,
aussi
oui.
placer des rubis.
Tout.
Nous, on voit des différences entre les qualités de pierre, mais maintenant, c'est bien agréable de sortir que ce soit du rubis, de l'émeraude. Si c'est un changement, non. Il n'y a pas vraiment... Enfin, moi, je n'ai pas vraiment de préférence. Non.
Est-ce que vous êtes amoureux des pierres que vous placez?
Ah oui, j'aime beaucoup les pierres. Celle que j'aime le moins sortir, celle que j'aime le plus pour les couleurs, c'est l'émeraude.
Et pourquoi vous aimez moins sortir l'émeraude?
Parce que c'est la pierre la plus fragile.
Ah oui.
Alors c'est vrai que l'émeraude, je crois, est la pierre la plus fragile. Vous étiez déjà venu nous parler, Patrick Voileau, du diamant dans cette émission il y a deux ans, mais nous n'avons pas eu le temps de parler des autres pierres précieuses, des pierres de couleur, l'émeraude, le saphir, le rubis. À propos, qu'est-ce qui donne sa couleur à une pierre?
Alors, dans une pierre, vous avez, c'est un peu comme un immeuble, si vous avez la charpente d'origine, vous avez les murs, etc. Alors, prenons l'émeraude, par exemple. L'émeraude, c'est un silicate de beryllium, c'est-à-dire vous avez des atomes de silice et de beryllium qui vont se poser. Et puis, quand cette pierre va se former, vous allez avoir dans le milieu des oxydes qui vont passer. Et là, notamment, c'est du chrome qui va colorer en vert la pierre. Mais si ça avait été de l'aluminium, ça aurait été une aigmarine. Si ça avait été
du fer, ça aurait été un saphir, c'est ça? C'est le fer, le saphir.
Non, le saphir, c'est l'aluminium, mais c'est un silicate d'aluminium en réalité. Mmh. C'est un oxyde d'aluminium. Excusez-moi, le saphir. Le saphir et le rubis sont la même chose. Il y en a un qui est coloré par le titane et l'autre qui est coloré par le chrome.
Alors prenons ces importants, ces pierres précieuses les plus connues de couleur, rubis, saphir, émeraude. L'émeraude d'abord, elle est verte, donc c'est la couleur de l'espoir. Elle a des vertus assez curieux. J'ai lu aussi dans un de vos livres que par exemple elle avait la vertu, disait-on, de calmer les gens. Et Néron, si bien que Néron, quand il regardait un combat de gladiateur, le regarder à travers une émeraude, comme ça calmait l'excitation qu'il éprouvait à revoir ses combats.
Oui, oui, absolument. Bon, c'était contesté parce qu'on pensait, après, on a pensé que c'était un béryl plutôt vert ou bleu. Mais c'est vrai qu'elles ont des pouvoirs. On leur a toujours attaché l'émeraude, par exemple, c'est la pierre des navigateurs.
Pourquoi ?
On dit que elles protègent les navigateurs contre les tempêtes, les naufrages, etc. Bon, elles ont toutes des vertus particulières en fonction de chaque pierre.
Et l'émeraude, justement, restons dans l'émeraude. L'émeraude, d'abord, c'est une pierre qui est exploitée depuis des temps immémoriaux. Les Égyptiens, les pharaons, Cléopâtre avaient ces mines d'émeraude déjà.
Oui, absolument, oui. Cléopâtre avait ses mines d'émeraude. On exploitait l'émeraude aussi en Autriche. Il y a certaines pierres sur des couronnes françaises viennent d'Autriche. Et puis ensuite, à la période des conquistadors, on a commencé à ramener des émeraudes d'Amérique du Sud. Et là aussi, les émeraudes étaient exploitées depuis très longtemps par les Indiens.
Bien avant eux. Hein,
oui. Voilà, après combien. Mais qui les utilisaient pas en objet de parure, ou très très peu, qui les utilisaient en offrande aux dieux. C'est-à-dire, il y a de très belles légendes, comme la légende de la lagune de Guatavita, qui est à côté de Bogota, où le cacique, lorsqu'il était intronisé, jetait dans la lagune des seaux d'émeraudes, des paniers d'émeraudes.
On les a retrouvés?
Alors, oui, justement, les conquistadors, en arrivant, essayaient de vider la lagune, on en retrouvait une partie, mais pas tout.
Ouais. En revanche, vous évoquez la découverte d'un trésor fabuleux d'émeraudes, hein, des centaines de carats d'émeraudes qui ont été découverts dans un galion au large de la Floride, dont une émeraude, qui est peut-être la plus fabuleuse de toutes, qui avait été faite pour Cortés, enfin que Cortés, qui avait été donnée à Cortés, c'est ça?
Oui, qui s'appelait la reine Isabelle, oui. Effectivement, c'était le trésor de Cortés qui revenait, le bateau a brûlé, a sombré, et des chercheurs de trésors ont mis à jour des coffres entiers de pierres, de bijoux.
C'est la Colombie, hein, quand même, si je puis dire, le berceau de l'émeraude. Dans un film aussi, dans un DVD, qui relate vos voyages dans le monde à travers à la recherche des pierres précieuses, on vous voit notamment dans ces mines qui étaient très célèbres en Colombie, d'où vient la majeure partie de la production d'émeraude.
Oui, les plus belles émeraudes sont venues de tout temps de Colombie, ce qu'on appelle le triangle vert qui se trouve au nord de Bogota. On en trouve des très belles aussi dans le Panchir, c'était les émeraudes de Massoud que le commandant Massoud avait utilisées pour payer ses armes, pour repousser les Russes. On en trouve aussi en Afrique, on en trouve à Madagascar. La plus grosse connue a été trouvée à Madagascar, elle pesait 74 kilos. Et bon, on en trouve dans certains endroits dans le monde, mais les plus belles, sans conteste, viennent de Colombie, c'est vrai.
Et les plus beaux rubis, alors vous le dites, viennent en revanche ce qu'on appelle les sangs de pigeon, hein, parce qu'ils ont une couleur caractéristique. Ça vient de Birmanie, les mines de Mogok, hein, qui étaient célèbres aussi.
Oui, alors dans les écrits depuis le 5e siècle, on sait qu'on exploite ces mines qui se trouvent près de la frontière de la Chine, où on marche pratiquement sur le rubis. C'est-à-dire dans la ville de Mogok, c'est une ville où les alluvions des montagnes environnantes tombent dans la ville, donc les gens sont obligés de reconstruire les maisons les unes au-dessus des autres, c'est-à-dire il y a des étages à ne plus en finir. Et dans les rues, comme ce sont des alluvions qui arrivent, ce sont des rues en terre battue, on trouve de temps en temps des rubis par terre, tellement l'endroit
est... La case baissée, quoi.
Voilà.
Alors j'étais très surpris en vous lisant, Patrick Voileau, par une chose. Moi, à mes yeux, la plus chère des pierres précieuses, c'était le diamant. Pas du tout, dites-vous, ça peut être, c'est souvent le rubis. À poids égal, bien entendu.
Oui, parce que, si vous voulez, bon, l'exemple est simple. On parlait tout à l'heure du plus gros diamant connu, pur, blanc, etc., qui faisait 3106 carats. C'est-à-dire gros comme une pomme de terre. Et je vous ai cité après un des plus gros rubis connus qui faisait 300 carats, c'est-à-dire 10 fois moins. Donc le rubis, il est très difficile de trouver des rubis très gros, de très belles couleurs. On peut en trouver des ce qu'on appelle pierreuses, c'est-à-dire pas transparents, avec une belle couleur. Mais les très beaux rubis, couleur sang de pigeon, transparents, qui font des pierres exceptionnelles, sont très rares à trouver. On les trouve qu'à Mogok. Et il y en a très peu qui sortent. Donc, ils prennent des prix tout à fait incroyables. Le rubis est l'une des pierres les plus chères du monde. La plus chère est sûrement le diamant rouge. On en connaît une douzaine.
Ah oui?
Ouais, 12.
En tout cas, le rubis, c'est la pierre de l'islam aussi, qui le vénère. C'est la pierre des couronnes royales, plus importante, je crois, pour les rois, vous le disiez tout à l'heure, que le diamant. Pierre des rois, alors que le saphir, en revanche, bleu, pas toujours, hein, on le verra, mais c'est plutôt la couleur des ecclésiastiques. Je crois que la bague des évêques est faite avec un saphir, c'est ça?
Oui, alors il y a un pape qui écrit dans une bulle à une certaine époque qu'il était indispensable que les évêques possèdent à la main droite une bague avec un saphir dessus parce que ça représentait la couleur céleste et ça représentait Dieu et c'était la main avec laquelle il bénissait.
On dit que c'est aussi parce que ça avait la vertu de freiner le désir amoureux. Hein. On dit souvent que l'émeraude c'est un aphrodisiaque, le saphir au fond c'est le contraire.
Peut-être, oui, on le dit.
Alors, d'ailleurs, c'est pas toujours bleu, hein, le saphir.
Non,
c'est ça qui est assez étonnant. Le rubis, il y a des nuances différentes, mais il est rouge, l'émeraude, elle est verte, mais le saphir, bleu, hein, on dit toujours bleu, il peut être de couleurs très très différentes.
Ah oui, on peut trouver des saphirs roses, des saphirs jaunes, des saphirs verts, même des saphirs translucides qui ressemblent à qui ont un éclat pratiquement comme le diamant. Et il y a des saphirs très rares qui sont légèrement rose-orangés, qu'on appelle paparacha, ça veut dire fleur de lotus en singalais, et c'est une couleur fleur de lotus qui est très rare.
Mmh. Alors ça, les saphirs, là aussi, il faut aller les chercher parfois très loin. Quand Marco Polo avait découvert en Asie les richesses de l'Asie, les saphirs venaient, je crois, à l'époque de Ceylan. Alors aujourd'hui, plus maintenant, mais pendant longtemps, à partir de la fin du 19e siècle, on les trouvait dans des endroits, mais alors dans les mines les plus inaccessibles du monde, c'est-à-dire au Cachemire, Patrick Boileau.
Oui, absolument. Quand vous parliez de Marco Polo, il s'en servait de carte de visite, même, il prenait des saphirs, et quand il allait voir le Grand Khan, il servait de carte de visite son saphir. Et effectivement, on a trouvé à la fin du 19e siècle ces mines... d'une manière tout à fait fortuite, sont des marchands en passant qui ont trouvé des pierres par terre, et on a trouvé ces mines où on a trouvé les plus beaux saphirs du monde. Ils sont des saphirs bleus légèrement veloutés. Pendant très longtemps, on a pensé que ces mines étaient épuisées, et j'ai monté une expédition il y a 3 ans, parce que je pensais qu'elles ne l'étaient pas. Effectivement, j'ai raison, on a tourné un film, et j'ai écrit un livre à ce sujet. Les mines sont toujours exploitées, on sort toujours des saphirs du Cachemire.
Et pour les atteindre, on vous voit dans ce film, d'ailleurs, qui est en DVD aussi, vous passez plusieurs cols, c'est à 4500 mètres d'altitude, c'est quand même hallucinant. Mais on n'allait pas les chercher à l'époque de Marco Polo, là c'était assez lent, on ne les connaissait pas encore ces mines du Cachemire.
Non, on les connaissait pas à cette époque-là, ça fait un peu plus d'un siècle qu'on les exploite là-bas. Effectivement, il faut traverser le Grand Himalaya pour y aller, il faut faire à peu près 120 km à pied, aller-retour, traverser 5 glaciers, c'est un endroit en pleine zone de guérilla actuellement, qui est difficilement accessible.
Alors ces pierres précieuses, qu'il s'agit des saphirs, des émeraudes, des rubis ou des diamants, quand elles sortent de terre, ne ressemblent pas à celles que l'on voit dans les vitrines des bijouteries de la place Vendôme. Entre les mines et le bijou, il y a tout le travail de ceux qui les taillent et qui les polissent, comme ce lapidaire qu'on entend au micro de Marie-Christine Navarro en 1998.
Et nous faisons ça à la main, oui. J'ai les doigts un petit peu usés par moment, même les ongles. Parce que nous gardons la pierre dans les mains et nous devons l'user pour pouvoir la regarder et l'orienter. Et après la taille, donc il y a le polissage qui se fait sur une meule en cuivre, principalement, avec des poudres de diamant.
Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on voit ces pierres, avant qu'elles soient polies, leur éclat n'est pas du tout le même.
Ah non, du tout. Ah non, du tout. Un saphir, quand il est taillé, il est un peu gris, il est même un peu blanc, on dit, mais il sera pas beau. Mais nous savons un petit peu la couleur qui va sortir après. Je ne montre jamais les pierres en cours de travail à mes clients. Parfois, ça m'est arrivé une ou deux fois, et le client, il disait, mais c'est pas ma pierre, c'est pas possible, autre chose. Et quand la pierre a été polie, il a vu que c'était vraiment sa pierre, il a retrouvé la couleur. Mais au début, il était effrayé.
Depuis quand, comment et pourquoi, Patrick Boileau, on taille les pierres? Parce qu'après tout, ça peut paraître paradoxal, on trouve un énorme diamant, mais en le taillant, on en diminue le poids, donc éventuellement le prix.
Oui, mais on lui donne un éclat, si vous voulez, qu'il n'a pas à l'état naturel. Et le diamant, c'est certainement la pierre la plus ancienne au niveau de la formation, mais la plus récente au niveau de la taille, parce que c'était la pierre la plus dure. On l'appelait à Damas, c'est l'indomptable. Et donc, c'est celle qu'on a taillée le plus tard. Les autres pierres, comme le saphir, l'émeraude, l'améthyste et toutes ces autres pierres-là, on les a taillées beaucoup plus tôt. Et on a essayé de leur redonner, en fin de compte, un petit peu les formes qu'elles ont dans la nature. Si vous trouvez une très belle améthyste ou un très beau saphir, vous avez une cristallisation qui est très belle. Et on essaie de redonner ses faces et de faire jouer la lumière, c'est-à-dire faire rentrer le rayon lumineux dans la pierre et le faire tourner dans cette pierre. et lui donner un éclat.
Vous avez cité d'autres pierres que celles qu'on a évoquées, le diamant, l'émeraude, le saphir ou le rubis, vous citez l'améthyste, il y en a beaucoup d'autres aussi, et même de nouvelles pierres, au fond, qui étaient peu connues ou peu appréciées autrefois parmi les pierres précieuses, Patrick Wallot. Vous évoquez par exemple la tanzanite aussi, je crois.
Voilà, c'est une pierre qui était inconnue. C'est-à-dire que la tanzanite, c'est une pierre qu'on a trouvée en 1960-70.
En Tanzanie, je suppose.
En Tanzanie, au pied du Kilimandjaro. Il y a 22 km carrés au monde qui produisent cette pierre. Et qui est une pierre superbe, qui est très bleue, bleu-mauve, qui est absolument fabuleuse. Il y a des pierres comme l'amétrine, c'est-à-dire moitié améthyste, moitié citrine, c'est-à-dire mauvais jaune, qui vient d'une seule mine qui est au milieu de la forêt amazonienne en Bolivie, qui est une pierre extraordinaire. Aujourd'hui, on commence à voir ces pierres avec un peu la communication. On arrive à faire revenir ces pierres et les gens voient de nouvelles pierres.
Et puis il y a aussi, alors là, il faut le dire, il y a aussi des pierres de synthèse et qu'on a du mal à distinguer des vraies. Est-ce que c'est pas dangereux, au fond, pour l'avenir des vraies pierres précieuses, Patrick Wallot ?
Non, je ne pense pas, parce que, vous savez, les vraies pierres précieuses sont toujours les vraies pierres précieuses. Les pierres de synthèse, il y aura toujours quelque chose qui sera différent des vraies. Il existait des pierres d'imitation, déjà au 1er siècle avant Jésus-Christ,
ouais.
Un empereur romain avait dit, parce que le diamant commençait à arriver à ce moment-là, et un empereur romain avait fait brûler tous les livres où on avait donné les trucs pour faire des imitations du diamant, en disant quelque chose qui est rare doit le rester. Et il a fait brûler tous les livres. Donc ça prouve qu'à cette époque-là déjà, on essayait d'imiter ces choses-là, mais impossible.
Alors pour les vrais pierres précieuses, je recommande la lecture de votre livre, Patrick Wallot, donc de vos livres. Hein. Pierre précieux, le dernier, c'est Pierre précieuse et Terre d'aventure, un beau cadeau de Noël d'ailleurs, hein, magnifiquement illustré qui vient de paraître aux éditions Hermé. Vous êtes également l'auteur de Diamants et pierres précieuses aux éditions Gallimard Découverte, ainsi que du livre À la poursuite des pierres précieuses, publié chez Privat en 2002, un livre qui porte le même titre que la série documentaire que vous avez réalisé sur le sujet, que vous pouvez retrouver dans un coffret de 2 DVD édité par M6 Vidéo. Vous avez pu entendre un extrait de Mazarin, une fiction de Pierre Cardinal interprétée par François Perrier, que l'on a peut-être reconnu dans le rôle titre donc Mazarin. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service de relations auditeurs au 32 30, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Olivier Riotor et Antoine Viossa, documentation et archives sonores Claire Destacan, Claire Tesser, réalisation, Anne Tobilac.